Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, il a la voix toujours claire. Claire mais profonde, ardente, comme son inspiration. Comme ses mélodies posées sur des textes qui savent parler d'autre chose que d'amour. Julien Clerc nous revient avec son 26e album studio baptisé « Terrien », avec un double sens évident. Terrien qu'un instant déposé sur un caillou de voie lactée. Joli, hein ? Les textes sont tous forts sur ce nouvel album. Un album pour lequel il a convoqué donc des auteurs qui vont de Clara Luciani à Marc Lavoine, en passant par Bruno Guglielmi, Bernard Lavilliers, Jeanne Chéral et Carla Bruni. Alors quand les jours heureux, les jours de partage et de liberté reviendront, Julien Clerc partira en tournée dès cet hiver, on l'espère. En tournée donc, une tournée de plus d'un an baptisée, à juste titre, les jours heureux. Eh ouais, c'est une promesse. Mais cet après-midi, déjà, nous sommes réunis.
Europe 1.
Bonjour Julien.
Bonjour.
Cher Julien Clerc, que se dit-on à l'aube de composer son 26e album studio quand on plaque les mains sur le clavier à la recherche du miracle de la première mélodie?
Ben, on se dit ce qu'on s'est dit depuis une cinquantaine d'années après tout, c'est-à-dire... Est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? C'est-à-dire, est-ce que je vais arriver à composer les 16, 17, 18 chansons nécessaires pour en sélectionner 12 pour faire l'album? Il y en a malheureusement, que ça devient évident qu'elles sortent dès qu'on écoute l'enchaînement des chansons piano-voix, comme ça.
Ouais. Alors, Elton John ne peut pas, paraît-il, il ne peut pas composer une chanson sans partir d'un texte. Pour vous, c'est le même processus. Vous demandez à vos auteurs des textes que vous allez mettre en musique, mais ça change quoi dans une chanson, le fait que les textes soient nés en premier?
Ça change que, pour le compositeur, en tout cas, ça change. Parce que composer, évidemment, des musiques sans texte, je l'ai fait, je le referai sans doute encore. Quoique ce qui me plaît de plus en plus, véritablement, c'est d'écrire sur les textes. Mais,
on n'est pas moins libre de composer sur des textes.
Oh non, non, parce que on est, c'est-à-dire qu'on a, après, est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est l'enchaînement des mots? Est-ce que c'est la sonorité des mots? Est-ce que c'est, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais moi, je suis inspiré plus vite quand j'ai un texte devant moi que quand je n'en ai pas.
Ouais. Alors, Julien Clerc, vous faites cet aveu étonnant. Vous dites. Je suis convaincu que je n'aurais pas duré 50 ans si j'avais été à l'aise devant la page blanche. Si j'avais écrit mes textes, je serais vite arrivé au bout du système.
Bah, peut-être.
Mais on peut vous répondre que de la même façon, on peut arriver au bout du système quand on compose ses mélodies. Pourquoi la musique serait moins répétitive que l'écriture? Pourquoi il y aurait moins d'usure dans la musique que dans les textes?
Parce que moi d'abord, je suis, il faut le dire, un pur musicien, c'est-à-dire un pur compositeur, j'ai même envie de dire d'ailleurs, un pur mélodiste.
Donc, inventeur de mélodies.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, les mots, et les mots renouvelés, me semble-t-il, au cours des années, avec malgré tout les styles qui changent un peu, même si les sujets sont les mêmes, la façon d'en parler, l'angle que peuvent prendre les auteurs, les poètes de chansons, les écrivains, ceux qui écrivent les mots, c'est différent. Il y a une façon, je ne saurais pas dire en quoi c'est différent, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil de mettre en musique un texte de, par exemple, de Clara Luciani et de Jean-Loup Dabadie. C'est pas pareil. Mais en tout cas, d'avoir pu travailler au cours de toutes ces années avec des auteurs qui sont maintenant tous de générations différentes, je suppose que ça a entretenu ma flamme de compositeur. C'est ce que je suppose.
Mais cher Julien, il y a quand même une chose qui m'intrigue beaucoup. Bon, sur ce nouvel album, baptisé Terrien, vous avez effectivement sollicité des auteurs comme Clara Luciani, Marc Lavoine, Jeanne Chéral, Bernard Lavilliers, le rappeur Vincha et Carla Bruni. Pourquoi, à 73 ans, ne pas prendre vous-même la plume?
Parce que j'en suis incapable.
C'est vous qui l'avez décrété.
Ah oui, parce que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est comme jouer à la comédie. Moi, je n'aime pas beaucoup jouer à la comédie et j'admire énormément les grands acteurs. J'admire les grands poètes, j'admire les grands auteurs, donc je sais exactement où est mon seuil, si vous voulez, de capacité.
Le seuil de Peter, voilà.
Ouais, c'est ça,
mais attendez, c'est vous, en fait, qui avez fixé cette règle.
Non, j'ai pas
fixé. Je suis persuadée que vous avez forcément, depuis 50 ans, griffonné plein de
textes.
Qui dorment dans des tiroirs.
Très peu. Jamais. Non, jamais. Je suis bon pour les textos, si vous voulez, mais pas pour les chansons.
Cet homme est incroyable. Bon, en fait, quand vous sollicitez un auteur, vous ne lui imposez jamais rien.
Non.
Et vous attendez avec une sorte de curiosité gourmande,
oui,
voilà, de découvrir ce qu'il souhaite vous faire interpréter. C'est presque un statut de muse, ça, Julien Clerc.
Oui, peut-être, si vous voulez. Je compte, évidemment, maintenant que le temps est passé, je crois que la personne qui écrit pour moi prend en compte plusieurs choses. D'abord, elle prend en compte un répertoire, sans doute. Et il va, je pense que cette personne, homme ou femme, va essayer de pouvoir à la fois, de faire une chanson à la fois qui pourrait s'inscrire dans ce répertoire et en même temps être différent de tout ce qui a été fait depuis plus de 50 ans. Et puis, je suppose malgré tout, je l'espère en tout cas, que cette personne se dit « bon, il y a quand même une chance qu'il me fasse une musique qui ne soit pas mauvaise dessus. » Et puis, j'ai, moi...
C'est comme ça d'ailleurs que vous êtes allé trouver un jour, tout à fait au hasard d'un festival,
ouais,
au cours duquel vous êtes rencontré, Bernard Lavilliers,
ouais,
qui n'avait jamais écrit pour vous, et
non,
vous lui avez demandé, et il vous a dit « ah bah là je sais effectivement que les musiques vont être belles alors... »
Oui, il m'a dit, oui, il m'a dit, avec ce regard qu'il a comme ça un peu, comme ça, où il me baisse la tête, il vous regarde un peu vers le haut comme ça, il m'a dit « ouais, c'est vrai que toi t'écris des belles mélodies ». Donc il était très étonné que je lui demande ça. Mais moi, je sais quel grand auteur il est, donc, vous savez, c'est mon métier depuis 50 ans de chercher des auteurs. Donc franchement, là, j'ai absolument aucun problème, j'ai pas d'état d'âme.
Alors Julien Clerc, pour la première fois de votre vie, parce qu'on dit 50 ans de carrière, 50 ans de carrière, mais pour la première fois de votre vie, vous qui avez toujours été dans des multinationales, vous vous retrouvez dans un label français indépendant avec une équipe très jeune, qui a vraiment les codes de 2021. Est-ce qu'ils vous ont gentiment bousculé ?
Non, du tout, ils ont été très... Vous savez, moi je leur ai dit dès le premier jour, je suis un soldat, moi, vous me demandez d'aller là, je vais là, vous me demandez de faire ça, c'est mon métier. Voilà, je veux dire, donc, moi vous pouvez compter sur moi à 2000% pour la promotion en particulier, qui est si importante de nos jours. Et voilà, donc ils le savent, et en échange, il me donne une, on va dire, une motivation, une joie de travailler qui, pour moi, est très motivante.
Alors, juste avant de faire une pause, Julien Clerc, le titre de ce nouvel album, il est aussi simple que puissant. Vous l'avez baptisé « Terrien ». C'est quoi le destin d'un terrien en 2021 ?
Je trouve que Guglielmi a très bien résumé évidemment cette condition-là de poussière de poussière,
voilà,
sur cette planète, qui est malgré tout une magnifique planète, et qu'on se doit de conserver pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je trouve que, comme dans beaucoup de chansons d'ailleurs, il y a quelques phrases très fortes, et là, Guglielmi a écrit, à la fin, quand il dit « tu ne seras pas venu pour rien si tu deviens tout pour quelqu'un », parce que malgré tout, on en revient quand même au principal, c'est-à-dire d'aimer et de provoquer l'amour.
On retrouve tout de suite Julien Clerc.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
On a la chance cet après-midi d'avoir avec nous, pendant une balade d'une heure, Julien Clerc. Alors, cher Julien, vous l'admettez volontiers, chanteur, c'est pas un métier normal. Mais c'est le vôtre depuis plus de 50 ans. Chanteur n'est pas un métier normal, mais c'est un métier plus sérieux qu'il n'y paraît, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un métier qui a son utilité quand même, parce qu'on accompagne la vie des gens de notre pays, et parfois d'autres pays, pendant leur vie. Voilà, parce qu'une chanson, c'est de l'art populaire, voilà, et ça trotte dans la tête, et comme le disait Trenet, même des fois, ça reste encore longtemps après.
longtemps après. D'ailleurs, Georges Badinter, vous avez écrit une lettre après que vous ayez interprété une chanson contre la peine de mort, L'assassin assassiné, signée, je crois, d'Abadi. On sous-estime, en fait, la portée de certaines chansons qui peuvent être utiles à vivre et à rêver, comme l'écrivait Rodagil.
Oui, oui, c'est vrai que Badinter m'avait dit ça, et c'est bien quand ça sort de... C'est pas à nous de le dire, c'est pas à nous chanteurs de le dire, mais Il m'avait écrit une lettre où il m'avait dit « Oui, votre chanson fait plus pour la cause que, je ne sais plus ce qu'il avait dit, 12 discours et 25 conférences. » Je ne sais plus très bien les termes qu'il avait. Mais donc, ça, évidemment, que ça m'avait fait très plaisir parce que, pour une fois, je sortais de l'univers romantique, poétique, etc.
Oui, oui.
Et tout d'un coup, on chantait une truc beaucoup plus... plus ancré dans la réalité que nous avions écrit avec Jean-Louis.
On doit lire avec une attention très particulière une lettre que vous adresse Badinter, n'est-ce pas ?
Oui,
quand
parce
on dit cachette.
Bien sûr, et puis je l'avais vu plaider en plus, donc on était en pleine période de la peine de mort. Je l'avais vu plaider, sa fameuse plaidoirie contre la peine de mort. Et dans tous les grands dossiers de peine de mort, donc de tous ces gens qui risquaient leur tête à l'époque, il faut le dire, et qu'il défendait, évidemment qu'il plaidait le dossier, mais aussi, à un moment donné, il plaidait une idée,
bien sûr,
qui était l'idée de la suppression de la peine de mort dans notre pays.
Alors, revenons à vous, Julien Clerc. Vivre d'un art depuis un demi-siècle, c'est à la fois un sacré privilège, et puis c'est une sacrée aventure, c'est quand même périlleux. Mais vous n'avez jamais eu d'éclipse en plus, c'est ça qui est absolument fabuleux. Jamais, à aucun moment de votre vie, Julien Clerc, vous n'avez eu d'autre envie que de chanter.
Non, 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 j'ai choisi la bonne occupation. Et c'est vrai, mettre des mots en musique... J'ai compris que c'était ça que je savais faire, et dans laquelle j'avais une chance de durer. Parce qu'évidemment, je me disais, je vais durer. Parce que comme je ne savais pas trop quoi faire d'autre, et donc je n'imaginais pas, j'ai douté beaucoup dans ma vie, c'est normal, mais que je continuerais...
Avoir d'autres envies, non.
Ah non.
Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Ça m'a pas... L'argent ne m'intéresse pas beaucoup. L'immobilier m'intéresse pas beaucoup. Il n'y a pas d'autre forme artistique qui m'intéresse, sinon comme client. Donc, je me suis accroché à cette idée que je me faisais de la vie. Et je dois dire que tout en essayant de mener une vie la plus normale possible,
oui,
et d'être le plus possible détaché des honneurs, entre guillemets, si vous,
oui,
voulez. C'est-à-dire,
oui,
c'est très agréable d'être célèbre, c'est très agréable d'être connu, c'est vrai, les gens... bien souvent vous offre...
Vous dites que ça apaise la popularité.
Oui, non, puis les gens vous offrent leur meilleur visage. Il y a peu de gens qui sont... Enfin, en tout cas avec moi, j'ai peu rencontré la haine ou la méchanceté. Généralement, j'ai eu de la chance. On est très gentils avec moi. Donc, je me suis dit, tant que tu seras capable, et que ça t'amusera surtout, de mettre des mots en musique et après de les chanter, parce que tout ça est intimement lié. Mais en même temps, de mener une vie normale. C'est,
oui,
ce qui fait dire, hein, ma fille Jeanne, papa, il passe de son piano au sauté de veau, ce qui est la vérité.
Parce que vous cuisinez très bien, paraît-il. Alors, la musique, c'est plus qu'un métier, c'est une façon de vivre hors du cadre et des horaires répétitifs de la société, même si vous nous dites que vous êtes toujours appliqué à mener une vie normale, entre guillemets. Mais comment s'écoulent vos journées quand vous êtes hors promo, Julien Clerc ? La musique, vous en faites, mais vous en consommez aussi beaucoup, vous,
oui,
en écoutez énormément.
Oui, oui, surtout en voiture.
C'est vrai ?
Oui.
Donc vous roulez beaucoup ?
Je roule beaucoup. Et pendant longtemps, je n'ai pas roulé, mais depuis le confinement, j'ai racheté une voiture. Et quand nous étions encore à Londres, j'ai fait plusieurs allers-retours entre Londres et Paris.
Vous ne preniez pas le ferry, vous aimiez embarquer la voiture.
J'adorais aller en voiture en plus.
Ouais.
Ah oui, c'est un voyage, c'est un beau voyage. Et puis voilà, et sinon je fais mes courses, je m'occupe de... Maintenant, mes enfants sont tous grands, mais j'en ai quand même encore un.
Un petit de 12 ans.
Voilà, je m'occupe de ma famille. Voilà.
Alors, vous dites avec humour que si vous aviez été un pianiste plus doué, plus,
ouais,
virtuose, techniquement, eh ben, vous n'auriez sans doute pas composé autant de tubes et de grandes chansons.
Oui, alors on avait cette discussion-là très souvent avec Jean Schultes quand nous étions passants. Nous avons fait une très longue tournée ensemble où il m'accompagnait. Alors on parlait beaucoup en voiture, au restaurant, tout ça. Et je lui disais, tu vois, je pense que c'est mon manque de savoir qui me permet d'être encore là, parce que je suis nul en solfège, je n'ai pas d'a priori. Et je me lance comme ça. Il m'avait dit, c'est ta technique, tant mieux pour toi, mais il m'avait dit, ce que tu me dis est idiot. Parce que, par exemple, regarde, Beethoven, il avait à la fois, ou Mozart, ils avaient à la fois le savoir, ils savaient ce que c'est que l'harmonie, l'écriture des notes, etc. Ça ne les empêchait pas d'inventer, ce qui est vrai. Mais en même temps, c'est pas la même musique. Vous savez, on dit que Mozart disait toujours, moi ce que je veux, c'est que le cocher sifflote mon air. Bon, je veux bien croire ça. Mais c'est quand même pas la même musique. La musique classique et nos petites musiques à nous, ce n'est pas la même chose. Donc, moi j'ai rencontré dans ma vie plein de gens qui étaient des fantastiques musiciens, qui étaient des grands sachants, si on peut dire, ouais, qui étaient des formidables interprètes.
Mais qui n'auraient pas pu faire un tube, une vraie chanson populaire. Ils n'inventaient pas,
peut-être parce que, moi c'est ma théorie, elle est peut-être complètement idiote, mais peut-être parce qu'ils étaient trop encombrés de tout ce savoir qu'ils avaient. Voilà.
Alors Julien Clerc, tout le monde connaît la scène de légende où en 67, au café L'Écritoire, près de la Sorbonne, alors que vous appeliez encore Paul Alain et que vous séchiez beaucoup de cours, eh bien, vous vous exclamez soudain avec une voix de défi et vous dites « Y a-t-il quelqu'un ici pour m'écrire des chansons ?» Bon,
vrai.
Alors le miracle, c'est qu'un certain Étienne Rodagil répond « Oui, moi !» Mais il n'y avait pas une chance sur un million pour que vous tombiez sur un génie.
Non, mais non, ça c'est sûr. Ça a été la première grande chance de ma vie. La deuxième étant de découvrir que j'étais capable d'inventer des mélodies. Ça a été, je crois, la première chose. Mais la deuxième, ça a été la rencontre avec Étienne. Moi, j'avais qu'une idée, c'est d'avoir ma musique sur un disque. Donc, peut-être, on ne sait pas. Mais peut-être que si ça n'avait pas été Rodaïque, si ça avait été quelqu'un d'un moindre talent, j'aurais quand même mis ses mots en musique, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de devenir chanteur.
Alors donc, si le poète catalan Rodagil n'avait pas fréquenté L'Écritoire, vous seriez quand même devenu chanteur, Julien Clerc.
Oh, sans doute, parce que là, j'étais parti. Ça y est, je composais des mélodies. Pourquoi j'ai demandé ça dans le bistrot ? C'est parce que, d'abord, dans ce bistrot, j'étais encore étudiant, donc. Et puis, aussi, je connaissais personne. Donc, à qui voulez-vous que je demande ? Moi, j'habitais Bourg-la-Reine, je faisais mes musiques dans le piano du salon, là, sur le piano de ma mère, enfin de ma belle-mère, qui n'aimait pas trop d'ailleurs parce qu'elle me disait « arrête de taper sur ce piano ». Et donc, je connaissais personne. Alors le seul endroit où il y avait un peu de monde, où j'allais quand je sortais de la maison de mes parents, c'était dans ce bistrot.
On fait une interruption vraiment très courte, on vous le promet. On se balade cet après-midi en compagnie de Julien Clerc. C'est merveilleux. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Julien Clerc, c'est très étonnant de vous entendre dire « En fait, je n'en serais pas arrivé là si mes parents n'avaient pas divorcé.
Oui. »
Il n'y a pas d'artiste accompli qui se soit construit sur une enfance heureuse, en tout cas sereine ?
Peut-être aussi, peut-être que si. D'autant plus que moi, je ne suis pas très partisan du du poète maudit. Je ne pense pas qu'il faille du malheur pour créer. Je
ne
crois pas du tout.
Vous dites quand même que toutes les fêlures en fait, oui, induites par la séparation de vos parents.
Ça, on va dire que ça affine l'émotivité, si
voilà,
vous voulez. Donc c'est pas plus mal. Mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que mon père avait épousé la fille de la femme de ménage de son père. Tout est parti de là. Et quand ces deux personnes se sont séparées, vraisemblablement pour les mêmes raisons pour lesquelles ils s'étaient rencontrés et aimés, c'est-à-dire comme des raisons sociales, et puis aussi pour d'autres raisons, qui sont les raisons des hommes et des femmes qui se séparent, j'ai été contraint, très très jeune, de faire des allers-retours de deux milieux sociaux. Et c'est ça, en fait, la vérité. C'est que cette histoire de musique, c'est une histoire de femme. C'est l'histoire de ma mère et de ma belle-mère. J'avais été confié à la garde de mon père, donc j'étais élevé par ma belle-mère, qui était une fanatique de musique classique. Et quand j'allais voir ma mère pendant les week-ends, eh ben, j'entendais du jazz et de la chanson française. Et ouais. La musique, chez moi, c'est une histoire de femme. Mon père n'entendait rien à la musique. Il adorait, adorait la poésie, mais il avait franchement des oreilles en bois. Et donc, mes deux
mères... Avec ces deux femmes-là, le collage était complet entre voilà, le classique, exactement. La variété et le jazz.
Mais même tout, c'est-à-dire pas que la musique, mais socialement. Ça m'a fait sans doute l'homme que je suis, qui est à la fois très intéressé par la politique, mais qui s'en sent très loin, ayant habité dans deux foyers diamétralement opposés politiquement, ce qui était très enrichissant, évidemment, pour un petit garçon, puis après
un adolescent. Un petit garçon qui menait donc une double vie, avec de part et d'autre des codes radicalement différents.
Oui, complètement, complètement différents. Mais la musique, en premier lieu, alors c'est formidable, parce que ça a été extrêmement riche, musicalement... C'est parce que les deux ont milité pour leur musique, si on veut dire, les deux. Enfin, alors, ma belle-mère m'a inscrit très tôt dans des trucs de là-bas, au Musigrain, là, c'était au Théâtre des Champs-Élysées. Alors ça, c'était 1000% musique classique, mais ma mère, elle m'a acheté des disques, on est allé au Music Hall ensemble, etc. Donc, j'ai été environné de musique dès le début.
Alors, l'été de vos 17 ans, Julien Clerc, cet été-là, il a sûrement eu un impact sur votre histoire, car bon, vous étiez parti en vacances en Corse avec un copain, et puis sur une plage de Calvi, il y avait une boîte où un groupe de musiciens cherchait un chanteur. Ouais. Jamais de votre vie vous n'aviez chanté, non. Mais vous êtes présenté au culot, ouais. Comme si vous étiez un pro. Et ouais, on vous a engagé.
Ouais, de même que j'avais dit, il n'y a pas quelqu'un qui. Là, les mecs m'ont dit, comme on était toute une bande de jeunes, là, voyons, on se retrouvait toujours au même endroit. Et ces gars-là qui arrivaient de Paris avec leurs instruments, ils ont dit, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui chante? Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit moi. Parce
voilà,
que...
comme Rodagil le ouais, dira un peu plus tard, oui, moi.
J'avais jamais chanté.
Mais alors, comment vous êtes débrouillé pour apprendre en 24 heures les chansons des Beatles et Otis Redding?
En 24 heures, vous êtes gentil. En l'après-midi, parce qu'on était sous la tente avec mon copain Alain, que j'ai retrouvé l'autre jour. C'est drôle, on s'est retrouvé après des années. Il est venu me voir en concert. Et maintenant, on est à nouveau en contact. C'est trop drôle.
Incroyable.
Et donc, c'était vraiment le truc de l'époque. On était vraiment les deux musiques, tous les deux, sous la tente. C'est-à-dire qu'il y avait les Beatles, c'était moi. Beatles, la pop anglaise, on va dire. Et lui était plutôt le R&B américain. Ce qui fait qu'on avait un tao comme ça de disques qu'on écoutait sous la tente. Et comme par hasard, c'est cette musique-là que je
vois. Vous l'écoutiez sur quoi?
Sur un manche-disque.
Sur un manche-disque. C'est ouais. Magnifique, je vois la scène. Et donc, vous avez passé tous les disques en boucle en essayant de chanter dessus de gribouiller les paroles.
J'étais quand même... Je m'apprêtais à être étudiant en anglais à Sorbonne, donc je baragouinais à peu près. Ce que j'arrivais pas à repérer comme texte, ma foi, je mettais ce que je pouvais dessus.
En yaourt.
Mais c'était la musique que eux jouaient, si vous voulez, donc ça tombait très très
alors,
bien.
Alors quand vous êtes monté sur scène dans cette boîte, ouais. Soudain vous êtes emparé pour la première fois de votre vie du micro, et vous avez poussé la voix que vous avez dû découvrir en même temps que les spectateurs, n'est-ce pas, amplifié. Ouais. Soudain, dans ce club, ça s'est passé comment?
Je sais pas te souvenir, je pense que j'ai fait ça instinctivement. Ouais.
Bon, quand vous êtes rentré à Paris, Julien Clerc, il paraît que vous avez continué de faire le chanteur dans les rallyes du 16e.
Ah oui, parce que comme j'étais quand même dans un lycée de la banlieue sud, etc., puis après la fac, j'avais quand même plein de petits bourgeois ou petites bourgeoises comme copines. Et donc... dont certains vraiment petits bourgeois, le 16e arrondissement. Et donc là, ça nous est décaché pour mon groupe. Là. Donc on allait faire danser ces jeunes filles et ces jeunes hommes, là, non, qui étaient en robe longue bien souvent, en smoking.
Dis donc. Bon, le droit vous ennuyait, donc vous avez quitté Assas. La fac d'anglais, vous avez très vite oublié d'y aller. Votre père, qui était normalien, et donc haut fonctionnaire à l'UNESCO, quand même, devait s'inquiéter réellement.
Le pauvre, il devait, ouais. Mais il a été quand même très, je me trouve très, très tolérant.
Il a été très tolérant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de rendez-vous les yeux dans les yeux, genre, qu'est-ce que tu fabriques là? Il faut arrêter tes conneries.
Il y a eu une fois ou deux, mais bon, il n'a pas été plus autoritaire que ça. Et très vite, d'ailleurs, j'ai quitté la maison parce que j'avais une fiancée qui habitait, elle aussi, Bourg-la-Reine, dans une maison que ses parents mettaient à sa disposition, sans savoir que j'y venais, bien sûr. Et donc, j'habitais là-bas, mais j'étais pas loin de chez moi. Donc, tout ça, ça restait une histoire de banlieue sud. Et donc, il ne me voyait plus déjà depuis quelques jours. Donc, quand je lui ai annoncé que je voulais en faire mon métier... ma foi, il a réagi plutôt bien, je vous dis. Plutôt bien.
Voilà, et puis arrive la fameuse scène au Café L'Écritoire qu'on a évoquée tout à l'heure. Et pendant que Rod Agile vous écrit des chansons tout en montant sur les barricades, eh bien en ce mois de mai 68, c'est vous, Julien Clerc, qu'on entend à la radio chantant La Cavalerie, qui parle d'abolir l'ennui. Donc c'était très très raccord justement avec mai 68. Une carrière est lancée. On retrouve tout de suite Julien Clerc. Allez, on plonge dans votre nouvel album baptisé Terrien et on écoute Mon Refuge.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver, dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écoutez les sirènes, envoûtez les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Yeah. Emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Yeah. Emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Faut dire qu'avant toi jamais je n'ai eu de maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Allez, emmène-moi, emmène-moi.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
C'est son 39e album. Et oui, 26e album studio précisément, mais il y a aussi 13 albums live. Je parle bien sûr de Julien Clerc, 53 ans de carrière et une inspiration toujours si vive, chargée, habitée. Il y a du feu dans ce disque, plein d'humanité. Voilà, il a pour titre Terrien. Et cet après-midi, on se promène en compagnie de Julien Clerc. Alors, cher Julien, j'aimerais braquer le spot sur certains moments particulièrement intenses et symboliques de votre histoire. Nous sommes l'hiver 1969. Vous avez 21 ans. Vous faites l'Olympia en première partie de Gilbert Bécaud. Tout le métier est là, de Gainsbourg à Salvador, mais surtout, surtout dans la salle, pour la première fois de votre vie, vous voyez vos parents assis l'un à côté de l'autre.
Oui, enfin, ils sont... Oui.
Presque là, à côté de l'autre.
Oui, presque là, à côté de l'autre.
Il y a trois fauteuils d'écart.
Mais je les ai vus, par contre, en coulisses, oui. Et c'est la première fois que je les voyais physiquement, en fait. Ouais.
C'est la première fois que physiquement, comme ça, même regard, ils étaient réunis.
Ouais.
Ouais. C'est fou, ça. On chante comment dans un contexte pareil?
Oh, je sais pas. Je pense que j'ai fait mon métier. Enfin, j'étais tellement heureux d'être là, ma foi. J'avais fait une petite comédie avant parce que je voulais en chanter plus de chansons. Alors, on m'avait donné 4 chansons, je crois. Et c'est Bécaud qui a... On est venu me dire, Gilbert pense que tu ne devrais en faire que 4, que tu as tort de vouloir en rajouter une 5e. Et donc, j'ai obtempéré parce que j'ai pensé qu'il avait raison. Parce que ça faisait déjà, il faut dire, des semaines que je le voyais. Nous avions commencé à Bruxelles, dans un théâtre à l'époque qui s'appelait Les Anciennes Belgiques. Et dès que j'avais terminé ma tournée en première partie d'Adamo, j'avais rejoint Bécaud. Gilbert Bécaud à Bruxelles. Et là, ça faisait des semaines que je le voyais travailler. Tous les soirs, je le regardais. Et quand il a dit « faut pas qu'il se braque, faut qu'il en fasse que 4 », j'ai compris que...
Le maître parlait, vous savez ce qu'il disait.
Donc j'ai fait que 4 chansons. Il faut savoir qu'à l'époque, à l'Olympia, les premières, c'était toute une affaire. Ce fameux « Tout Paris » dont parle Aznavour dans sa chanson « Je me voyais déjà
ouais. »,«
Tout Paris qui nous fait si peur », c'était ça, les premières de l'Olympia.
Ils étaient là. Mais alors ce soir-là, à l'Olympia... À l'entracte, Gainsbourg est venu vous dire des choses plus que délicieuses.
Oui, il est venu me dire avec sa petite voix comme ça, un peu traînante, c'est la première fois que j'entends quelque chose d'intéressant depuis, je ne sais plus ce qu'il a dit, X années.
Alors, je crois qu'il a dit depuis 7 ans.
Ah ben, peut-être. Donc là, ça m'a, évidemment, ça m'a... Et comme déjà, il y avait les paroliers de Bécaud qui nous avaient un peu pris sous l'oreille. En fait, il y avait une espèce de ressemblance. Gilbert, c'était un compositeur-interprète, comme je l'étais.
Ouais.
Il avait 3 paroliers emblématiques. Et je me souviens de Louis Amad me disant, avec son très joli accent catalan chantant, hein, lui aussi, il avait un catalan, Bécaud. Hein, Louis Amad me disant, tu sais, vous êtes la relève.
C'est merveilleux d'entendre ça, mais c'est merveilleux, ça donne un sacré carburant. N'empêche que la vraie rampe de lancement prodigieuse, et là je parle de popularité, eh bien ça va être la comédie musicale R.
Ouais.
Alors quand le producteur qui avait l'intention donc de monter R vient vous proposer le rôle principal...
Donc dans ma loge à l'Olympia,
ce fameux Olympia, d'abord vous refusez, il s'agit d'être nu sur scène. Mais le producteur, malin, vous donne 2 billets d'avion pour aller voir R à Londres, vous y allez... Et alors là, vous comprenez que l'enjeu de cette comédie musicale est vraiment révolutionnaire.
Bah oui, j'avais jamais vu quelque chose comme ça. J'étais quand même pas mal sorti pour quelqu'un de mon âge. J'avais été inscrit à la Comédie Française, donc j'allais très souvent au théâtre. J'avais quand même vu beaucoup de spectacles dans ma vie, j'allais beaucoup au théâtre.
Mais celui-ci fut un électrochoc, pas seulement pour ses raisons de nudité, on est bien d'accord.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Rien à voir, c'est parce que... C'était un courant neuf, soudain, qui était porté musicalement.
Ah oui, d'abord une des grandes musiques, une très grande musique, plein de grandes chansons. Et puis quelque chose qui ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu de ma vie. C'était moderne, c'était très anglo-saxon. Donc ça, évidemment, ça me flattait. Enfin, évidemment, j'aimais beaucoup ça. C'est une musique que j'aimais. Donc, de voir ça à la fois sur scène, et puis avec des gens très jeunes sur scène aussi. Attention.
Mais alors, quand même, je ne peux pas ne pas vous demander comment on chante nu sur une scène. Parce qu'on en fait quoi de sa pudeur naturelle? Et Dieu sait si vous êtes pudique, Julien, quand on est nu sur scène devant 2000 personnes.
Mais en fait, on n'était pas nu. La scène de nu, d'ailleurs, j'étais habillé et je chantais. Mais quand tous les autres sortaient tout nus comme ça, vous savez, c'était dans les derniers... C'est la dernière chanson avant l'entracte. Les derniers accords, c'était dans une semi-pénombre. Les gens ne voyaient rien, à mon avis. Même ceux qui cherchaient à voir. Mais c'était plutôt le tableau tel que je me le représente. tous ces jeunes gens-là, les bras et les jambes écartés, ça faisait référence, vous savez, il y avait une manifestation contre le Vietnam aux États-Unis, dans l'université à Berkeley, je crois. Et au moment où la police voulait les charger, ils s'étaient tous foutus à poil, comme ça, en non-violence. Voilà, donc je pense que ça faisait référence à cette journée-là dans la pièce.
Alors, revenons à votre répertoire, Julien Clerc. Il y a dans les 30-35 premières années de votre parcours, deux auteurs de légende qui ont vraiment marqué de leur empreinte vos chansons. D'abord, Rodagil, le poète catalan dont les textes complètement hermétiques donnaient pourtant des chansons ultra populaires. Or, dans la vie, il paraît que vous n'étiez pas réellement complice dans la vie. Par exemple, vous n'êtes jamais parti en vacances ensemble.
On n'était pas. J'étais ami intime avec Maurice Vallet, qui était le troisième larron, et qui écrivait évidemment beaucoup moins de chansons qu'Étienne Momo. Mais avec Étienne, évidemment qu'on était très complices, on se voyait, on sortait tout le temps ensemble, mais il n'y avait pas, comme avec Momo par exemple, je connaissais très bien les parents de Momo. Je veux dire, la vie d'Étienne, d'abord, était plus âgé que moi. Il était plus âgé que nous deux. Et il avait déjà des enfants, ce que nous n'avions pas, Momo et moi. Donc, il était plutôt comme un espèce de grand frère. J'en ai eu un autre par la suite, qui était Dabadi, lui aussi, qui a été un autre grand frère. Des gens plus âgés que moi, qui me font chanter, littéralement, des choses que je n'aurais peut-être pas l'idée de chanter. Mais donc, des espèces de directeurs de conscience, comme ça, un petit peu, si vous voulez. Pas le copain qu'était Momo, voilà.
Puisque, voilà, on est sur Roda, Étienne. Rodagil, en fait, considérait que vous lui apparteniez. Il considérait que vous ne pouviez chanter que ses mots à lui, fussent-ils obscurs et hermétiques. Quand il vous a fait chanter, par exemple, « Allez donc dire aux moissonneuses, poissons morts, que la graisse de mitrailleuse n'est pas la brillantine des dieux », est-ce que vous avez osé une question ou aucune ?
Non, pour moi, c'était lumineux.
C'était lumineux.
Oui, c'était lumineux, franchement. C'est un truc écologique, avant l'heure, pour le coup. Tous ces poissons qui vont le long des fleuves, le ventre en l'air, qui sont morts sans doute de la pollution.
En tout cas, voilà, poème magnifique qui existe avant même que votre musique ne vienne l'épouser.
Oui, bien sûr. Oui, je fais ma musique là-dessus.
Alors, on s'interrompt vraiment quelques secondes, Julien Clerc, car j'ai encore 1000 questions à vous poser. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Terrien, le nouvel album de Julien Clerc, est le 39e. Et oui, 26 albums studio et 13 albums live. Toute une vie en chanson. Nos vies avec ces chansons. Julien Clerc est mon invité. Cher Julien, on évoquait à l'instant votre premier auteur de légende, Rodagil, qui écrivit pour vous « La Californie »,« Ce n'est rien », »,« Le patineur »,« Poisson mort »,« Utile ». À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Voilà, Rodagil considérait vraiment que vous lui apparteniez, vous ne pouviez chanter que ses mots à lui. Je voudrais savoir s'il a été malheureux, très malheureux, quand vous vous êtes tourné vers Jean-Loup Dabadi, qui, lui, vous a écrit par exemple « Ma préférence » et puis « Femme, je vous aime ».
Oui, je suppose. Je suppose. Mais est-ce que ça l'a fait plus boire qu'avant ? Je ne sais pas.
Mais... Vous êtes un voyou, là.
Non, mais je veux dire, certainement, il a dû... Il l'a très mal pris. Un jour, après plusieurs disques sur lesquels il figurait à côté d'autres auteurs, et même certains disques sur lesquels il n'était pas, je lui ai dit, écoute, c'est ridicule entre nous depuis le temps que ça dure, que je ne puisse pas te jouer les chansons des autres. J'aimerais tellement pouvoir te les jouer pour que tu me donnes ton avis.
Oui.
On a fait une séance à la maison. J'ai commencé par une chanson de Jean-Claude Vanier.
Bon. Oui.
Et il était en transpiration. Et comme il était un physique important, Étienne, quand on dit rentrer dans une pièce, il remplissait la pièce. Et là, il remplissait la pièce de son malaise. Il était malheureux physiquement. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je me suis dit, ça ne mène à rien. Il ne supporte pas physiquement. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas. Bon. Donc, voilà. Bon, c'était ça notre relation. Et d'ailleurs, je l'ai toujours respecté, ça, complètement. Quand il me disait « c'est bien joli, tout ça, mais c'est pas toi », je comprenais qu'il me dise ça, je comprenais
Et quand il disait « c'est pas toi », ça veut dire « toi, c'est moi ».
Toi, c'est nous.
C'est ce que je te fais chanter, c'est nous.
Toi, c'est nous, en tout cas, voilà. Et même, quand je lui ai dit « écoute, Merde, tu peux pas dire que ma préférence, c'est pas bien. Tu peux pas le dire, ça. Ah, mais il m'a dit, bah, évidemment, évidemment que, à toi, il te donne les plus belles plumes de son chapeau.
Alors justement, Davadi, qui a écrit Ma préférence, Davadi était un auteur multicarte. Oui. Il a écrit des sketchs pour Guy Bedos. Il a écrit les plus beaux scénarios des films de Claude Sautet, quand même. Les choses de la vie, César et Rosalie, Vincent-François Paul et les autres, Max et les ferrailleurs, une histoire simple. Il a écrit des pièces, des romans, et puis certaines de vos chansons les plus populaires. En fait, il n'y a pas d'autre exemple d'auteur de chansons qui s'impose ainsi dans autant de domaines différents.
Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas.
C'est très étonnant.
Surtout avec un taux de réussite semblable.
Oui, c'est ça.
Dans tout.
C'est ça. Bon, revenons à vous, Julien Clerc. Alors, il y a peu, vous avez passé 5 ans de votre vie à Londres. Londres qui est vraiment une ville dédiée à la musique et à l'entertainment. Est-ce qu'on se met à composer différemment quand on baigne dans une culture musicale différente de celle de la France?
Non, je ne pense pas qu'on compose différemment. En revanche, on est influencé sans doute par cette musique omniprésente dans tous les endroits publics, restaurants comme magasins de vêtements, comme magasins de nourriture. Il y a de la musique tout le temps et souvent de la très bonne musique.
C'est ça.
Alors, même quand vous allez au stade, même quand vous allez au football, moi j'allais voir le club de Chelsea, mais...
Les hymnes sont absolument incroyables.
Ah, les hymnes, c'est des tubes.
Voilà.
Bon, donc, si vous voulez, ça... Évidemment, vous êtes baigné dans la musique, c'est peut-être inconsciemment ce que j'ai cherché en allant vivre là-bas.
Pour un Français, Londres, c'est une ville-monde d'un exotisme fou, car Londres offre un mix à la fois ultra-conservateur et totalement déjanté. Vous y avez été très heureux avec votre épouse et votre fils pendant ces 5 années,
oui,
Julien Clerc.
Très heureux. Ouais. Très heureux parce que les codes anglais nous convenaient. Même ceux qui sont différents d'ici, on s'y fait. On est obligé de s'y faire, parce que, par exemple, le rapport à l'argent est un rapport assez hystérique.
À Londres
Oui, les Anglais, ils rigolent pas du tout avec l'argent, si vous voulez. Donc, c'est un rapport plus violent que chez nous, qui sommes plus latins, si vous voulez. Donc ça, il faut s'y faire, parce que les premiers temps, on est choqué un peu. Mais après, une fois qu'on s'y est fait... D'abord, on comprend comment fonctionne le monde anglo-saxon et en quoi il est différent de nous. Et même si certains côtés, comme celui que je vous décris, peuvent être choquants pour un Français, d'autres sont très agréables. Par exemple, c'est une société de service, comme aux États-Unis.
Oui.
Donc, le client est absolument roi.
Oui.
Donc, tout ça, c'est très drôle parce que c'est très exotique, si près de Paris. Et aussi, quand on s'intéresse un peu à la culture et à l'histoire, c'est une histoire imbriquée dans l'histoire de France de façon incroyable.
Bien sûr.
Donc, ils ont été... D'abord, une partie de la France a été anglaise pendant des siècles. Mmh. On a tendance à l'oublier. Mmh. Et l'exemple que je cite toujours et qui est follement drôle, parce que la France est omniprésente à Londres, même si c'est du French bashing souvent. Mais quand vous allez dans
la perfide Albion.
Oui, quand vous allez dans la cathédrale Saint-Paul, vous avez un très grand nombre de tombeaux. Les 9/10 de ces hommes sont morts en combattant la France à différentes périodes de l'histoire.
Ouais.
Donc, c'est une histoire qui est très, très imbriquée, l'histoire française, l'histoire anglaise. Et c'est très passionnant à vivre même sur place.
Voilà. Alors, finalement, l'année dernière, à cause du Covid et du Brexit, vous avez reposé vos valises en France. Et puis, de retour à Paris, il paraît que vous avez été frappé par... le manque cruel d'arbres dans la capitale. Il y a de moins en moins d'arbres à Paris, c'est factuel.
Ouais.
Les vrais espaces verts disparaissent. Par rapport à Londres, c'est vraiment saisissant.
Par rapport à Londres, c'est saisissant. Surtout, c'est l'entretien. Les Anglais mettent visiblement un argent fou dans l'entretien des espaces verts dans Paris. Mais ils mettent un argent fou dans l'écologie. Vous savez qu'ils ont... mis je sais pas quoi de l'oxygène dans la Tamise, ils ont ramené 150 races de poissons dans la Tamise. Donc je veux dire, c'est un peuple écolo, et donc les animaux et les plantes sont très importants en Angleterre.
Voilà, tandis que à Paris on parle beaucoup d'écologie, mais en fait la capitale se bétonne de plus en plus.
Oui, de plus en plus, et puis quand on voit le bois de Boulogne par exemple, c'est effrayant.
Mmh.
C'est effrayant. C'est le seul parc, enfin, avec le parc de Vincennes.
C'est le poumon.
C'est les poumons de Paris. Voilà. Et de voir comment ils sont traités, c'est très désolant.
Alors, du coup, vous qui étiez parisien dans l'âme, après tout ce qu'on vient de dire, justement, bah voilà, vous avez décidé de pas vous installer à Paris, mais vivre pas très loin, mais dans une, on va dire, la presque campagne. Mais comme vous adorez bouger, Julien Clerc, j'ai appris que vous pourriez, quand l'épisode Covid sera derrière nous, vous pourriez partir vivre peut-être en Italie, peut-être en Allemagne, vous pourriez.
Oui, je pourrais tout à fait, à IES, absolument, si la vie le veut. Bon, vous savez que la vie n'est pas pareille quand vous avez des enfants qui vont à l'école et quand vos enfants ne vont plus à l'école. Mais là, j'ai la chance d'en avoir encore un qui va à l'école. Donc c'est ça qui décide aussi. Londres faisait partie d'un petit plan de vie pour lui, si on pouvait lui offrir ça.
Il est parfaitement bilingue maintenant.
Oui,
votre
il a
fils.
Été immergé voilà. Tout de suite dans les écoles anglaises. Et d'ailleurs, c'était très rigolo de voir le système des écoles anglaises, comment les enfants sont à la fois c'est un système qui est de caste certainement, mais pas dans les petites classes, je trouve. Et là, on était dans une petite école publique à Londres qui était, à mon avis, qui lui restera. En tout cas, moi, qui me restera, en particulier avec la façon dont ils l'ont repris. Il les faisait chanter. C'était trop merveilleux. La musique était omniprésente, encore une fois.
Ah, la musique. On fait une pause. On retrouve tout de suite Julien Clerc.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Julien Clerc, l'hiver prochain, si le Covid, la Covid n'est plus qu'un triste et mauvais souvenir, on prie tous pour ça, eh bien vous prendrez la route pour une tournée baptisée, avec raison, Les Jours Heureux. Une tournée qui vous emmènera de concert en concert pendant plus d'un an et qui passera par les festivals d'été 2022. Or, récemment, Hélène, votre compagne, s'est exclamée en regardant le contrat de cette tournée, 130 concerts ! Vous allez faire 130 concerts ! Vous ne trouvez pas que c'est trop ?
Mais
elle a vraiment dit ça.
Oui, oui, elle a un peu, mais j'en avais fait déjà plus dans la tournée d'avant. Les gens qui travaillent avec moi le savent, ils me l'ont dit. Les techniciens, les musiciens m'ont dit, tu sais, tu es un de ceux qui tournent le plus. Mais j'espère même qu'il y en aura plus, je vais vous dire, parce que je me débrouille toujours pour monter un tour de chant qui puisse passer dans des salles de tailles différentes, avec des plus ou moins de musiciens. Et si je dois me retrouver à un moment donné avec un seul musicien en scène...
Vous aimez aussi les concerts acoustiques.
Ça. Voilà, j'adore voilà. Ça. Donc, quand je pars en tournée, ce n'est pas à moitié.
Quand on prononce cette phrase, 130 concerts, vous ne trouvez pas que c'est trop ? Alors, bien sûr, on entend 130, mais on entend aussi le vouvoiement.
Oui.
Vous voyez.
Oui, on se voit.
Avec
depuis...
la femme de votre vie.
Oui.
Qui est la mère, donc, de Léonard, votre plus
oui,
jeune
oui.
fils, Léonard.
Oui, oui. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est parti. Moi, il faut dire, je ne tutoie pas facilement dans la vie, déjà. Ensuite, quand on s'est connus, tout naturellement, on s'est vouvoyé. Et puis au bout d'un moment, au lieu de passer au tutoiement, ben, on n'est pas passé au tutoiement. C'est ça qui s'est passé, je suppose. Et après, c'est très difficile de se tutoyer, puis on n'a plus tellement envie.
Revenons à la tournée. Votre épouse et votre fils de 12 ans viennent parfois à certaines étapes ou rarement ?
Ils viennent de temps en temps, mais non, pas si souvent que ça. Parce que quand on est en tournée, on prend des habitudes un peu solitaires. Ça doit être difficile d'arriver de l'extérieur, de voir des gens qui sont tous là comme ça, agglomérés, qui ont l'habitude d'être tous ensemble, de bouffer au catering à midi, le soir. On doit se sentir un petit peu exclu, moins que sur les tournages de films, où là je trouve que c'est absolument incroyable pour l'avoir vécu de temps en temps. Les tournages de films, c'est encore plus, alors je veux dire une bulle, mais quand même les tournées, ça l'est quand même un peu.
Julien Clerc, 53 ans de carrière, sans éclipse, 53 ans de carrière dans un monde si mouvant, c'est phénoménal. Il est passé vite, très vite, ce demi-siècle.
Le demi-siècle, il est passé quand même assez vite, oui. Il est passé assez vite avec l'impression d'avoir vécu, par moments, pas plusieurs vies, mais enfin la même vie avec plusieurs actes, on va dire. et donc, oui, c'est quand même passé assez vite. Mais c'est vrai que, vous avez raison, 53 ans, c'est quand même ça. C'est long. Et j'en reviens pas moi-même quand même de m'amuser toujours autant quand je me mets derrière un piano pour inventer une mélodie, quand même. C'est drôle. Mais je n'ai pas changé mes habitudes de travail. Je n'ai pas de studio à la maison, je n'ai pas de tentation électronique, etc. J'adore aller au studio.
Ouais.
J'adore faire le... C'est-à-dire là, c'est le moment où on fait le disque. Alors c'est génial, le matin, je vais au studio. Et là, je suis en contact avec les gens dont c'est le métier. Mais chez moi, je suis resté, je pense, l'artisan que j'étais, mais je pense que c'est générationnel, ça, hein, l'artisan que j'étais il y a 50 ans.
Alors, puisqu'on évoque ce demi-siècle de carrière, qui vous manque le plus parmi ceux qui ont quitté le paysage ? Avec qui regrettez-vous de ne plus pouvoir échanger ?
Bah, Rodin, bien sûr. Dabadie, énormément.
Ouais. Vous êtes parlé avec Dabadie, paraît-il, une semaine avant qu'il ne nous quitte.
Quelle chance. Je ne lui avais pas parlé depuis un certain temps. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça, je suppose que c'est la préscience qu'on peut avoir de temps en temps dans la vie, nous tous. Je me suis dit, il faut que je parle à Jean-Loup. Et je l'ai appelé. Et en fait, je crois je l'ai entendu à sa voix. Il n'allait pas bien du tout. Mais on avait cependant parlé très longtemps. Et ça me fait de la peine de dire ça. Mais quand j'ai raccroché, j'ai dit à Hélène... pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à un vieux monsieur. Dans la voix, il y avait quelque chose qui avait changé. Parce que Jean-Loup, il a toujours eu une voix juvénile.
Oui.
Tout le temps, toute sa vie. Et là, j'avais parlé à un monsieur qui était bougon et puis surtout qui avait une voix de vieux monsieur. Mais bon, évidemment, je ne pensais pas qu'il partirait quelques jours plus tard.
Alors, Julien Clerc, la grande affaire de votre vie, c'est la musique, bien sûr, mais... Juste après, tout de suite après, c'est quoi ?
Oh ben c'est la vie de famille sans laquelle... Parce que je ne crois pas qu'on puisse être un artiste prolifique, comme j'essaie de l'être, si on n'a pas une authentique vie privée quand même. Parce qu'il faut bien nourrir ça de quelque chose. Il faut bien se nourrir d'émotions vraies pour après inventer des choses. On peut être dévoré par son métier, ce que je suis sans doute, mais il faut avoir une vraie vie à côté, la vraie vie, la vie des gens, quoi. Ouais.
Des gens pour lesquels vous chantez. Le nouvel album a pour titre « Terrien ». Il y a du feu, il y a une émotion vibrante dans ces textes et les mélodies que Julien chantera en tournée, on l'espère tous, la tournée baptisée « Les jours heureux » qui pourra démarrer, si tout va bien, dès l'hiver prochain, qui durera plus d'un an et qui passera par les festivals d'été 2022. Merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous, Julien Clerc.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse, à très vite.
Au revoir.